Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans la suite de notre temps de jeûne et prière. Et on a choisi de faire l'étude biblique à la place de l'exhortation, puisque l'étude biblique, le contenu correspond également à ce temps de jeûne et prière. Puisque le livre d'Esdras et de Néhémie, les livres d'Esdras et de Néhémie nous parlent du retour à Dieu. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le retour à Dieu. C'est équivalent à ce que Esdras et Néhémie ont fait, la reconstruction de la relation entre le peuple d'Israël et dans la relation entre le peuple d'Israël et de son Dieu. En reconstruisant le temple, en reconstruisant également la muraille de Jérusalem. Donc nous allons continuer. On s'était arrêté à Néhémie chapitre 6, dont nous allons continuer dans cet esprit de retour à Dieu qu'il y avait en Néhémie, qu'il y avait en Esdras. Nous, on n'a pas à construire des murs physiques ou des bâtiments physiques, mais à construire l'Église dans la spiritualité que Dieu attend de nous. C'est pourquoi nous prenons ces bien-aimés-là en exemple, Néhémie et Esdras. Donc, au niveau du chapitre 6, la muraille est reconstruite avec beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, mais finalement, le Seigneur donne la victoire à Néhémie, la muraille est achevé malgré les difficultés. Et pour nous, la muraille, ça peut être la logique de prier. Donc, il faut que la logique de prier revienne dans l'Église du Seigneur. Il y a des gens, donc, quand, par exemple, on a déjà fait un temps de prière, on leur dit que dans une heure, il y a encore un autre temps de prière. Ils se disent, mais on vient déjà de prier. Oui, mais la prière, c'est une construction qui ne s'arrête pas. Et nous devons revenir à la prière parce que c'est comme ça que nous construisons une muraille dans, par rapport à l'œuvre de Dieu, une muraille de protection. Mais la prière, c'est aussi une arme d'attaque. Voilà, c'est les deux. Et c'est le Saint-Esprit qui gère ça en nous. Nous ne devons pas nous mettre la logique humaine dans la prière. Donc c'est à quoi nous pouvons comparer la muraille achevée. L'esprit de prière qui revient dans l'Église du Seigneur. Maintenant, tout n'est pas fini. Nous continuons le chapitre 7.
Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les bâtons des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison.
Voilà, nous voyons un détail qui est là, c'est que l'ordre est donné à Hanani, le frère de Néhémie, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Donc, on voit le principe qu'on retrouve dans les actes des apôtres quand il s'est agi de donner des responsabilités. On a donné ça à des gens qui avaient un bon témoignage, des gens qui étaient reconnus comme fidèles. Donc, ça, c'est l'aspect humain. Donc, c'est le niveau humain. Ce qu'il y a derrière, les hommes, nous, on ne connaît pas tout. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de mettre en responsabilité des gens qui ont un bon témoignage, dont le comportement correct est reconnu par tous, dont l'attachement à la Bible, à la vérité, est reconnu par tous. Et ces principes ne sont pas toujours suivis. Les gens parfois privilégient quelqu'un qui parle beaucoup, qui semble beaucoup prier, mais on néglige le comportement, on néglige l'attachement à la Bible, la foi. Donc il faut que tout ça soit examiné et c'est comme ça qu'on donne des responsabilités aux gens. Donc voilà encore un détail par rapport à la reconstruction. nous devons reconstruire dans cet esprit-là, veiller sur le témoignage des uns et des autres. Nous continuons, verset 4.
La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramia, Nachamani, Mardoché, Bilchan, Mispéret, Bigvai, Néoum, Bana, nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paréoche, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arash, 652. Les fils de Pachat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2818. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatou, 845. Les fils de Zakai, 760. Les fils de Binui, 648. Les fils de Bebaï, 628. Les fils d'Azgad, 2322. Les fils d'Adonikam, 667. Les fils de Bigvai, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Hachoum, 328. Les fils de Betsaï, 324. Les fils de Harif, 112. Les fils de Gabaon, 95. Les gens de Bethélène, de Bethléem et de Netopa, 188. Les gens d'Anatot, 128. Les gens de Beth-Azmavet, 42. Les gens de Kirjat, Jéharim, de Kephira et de Beeroth, 743. Les gens de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikmas, 122. Les gens de Bethel et d'Aï, 123. Les gens de l'autre Nebo, 52. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721. Les fils de Séna, 3930. Sacrificateurs. Les fils de Jedaéja, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pashur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites. Les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Odva, 74. Chantres. Les fils d'Azaph, 148. Portiers. Les fils de Shalum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobai, 138. Nétiniens. Les fils de Tsisha, les fils de Asufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Réaja, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Paseach, les fils de Bessaï, les fils de Meunin, les fils de Nephishim, les fils de Bakbouk, les fils de Akoufa, les fils de Harur, les fils de Batsils, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamash, les fils de Netziach, les fils de Hatipha, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotai, les fils de Soperet, les fils de Périda, les fils de Jala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokéret, Hatsebaïm, les fils d'Amon. Total des Néthéniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel Mélash, de Tel Archa, de Kéroub Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2 200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2 000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville.
Voilà, gloire à Dieu. Ça paraît fastidieux, cette lecture. Mais il le faut, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont fait ce travail-là. Si nous, on peut juste lire, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Donc, eux, ils ont vraiment fait des recherches, ils ont fait dénombrer, c'était du boulot. Et nous, on ne fait que lire. On doit lire pour que ça nous impose la logique de l'ordre qu'on voit dans cette affaire. Donc, s'il y a toute cette liste d'enfants d'Israël, de sacrificateurs, de lévites, c'est pour l'ordre. Parce que dedans, on a découvert des gens qui étaient sacrificateurs, mais qui n'en avaient pas la généalogie. Voilà. Et on a découvert des gens qui se disaient d'Israël, mais qui ne pouvaient pas le démontrer. Donc, il faut de l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Et, par exemple, quand nous pouvons faire ces diffusions par Internet, il y a de l'ordre, il y a une heure. Pour que les techniciens se rencontrent, qu'ils essayent de préparer le matériel. Il y a une heure pour les chantres, tout ça. C'est du boulot, c'est de l'ordre. L'Église, 1 Corinthiens 14, 33 nous dit, c'est une Église d'ordre. Donc nous devons comprendre ces choses-là, que ce n'est pas à la va-vite et à l'improvisation. Ça peut arriver à l'improvisation, mais ce n'est pas le style de travail que nous devons avoir. Nous devons être ordonnés dans notre travail pour être efficace. Nous présentons le travail de Dieu au monde entier. Il faut que dans l'Église du Seigneur, nous soyons exemplaires. Quand un païen vient, qu'il n'ait pas l'impression que c'est du laisser-aller, c'est du léger. Et s'il voit que nous sommes légers par rapport à Dieu, lui aussi, quand il se convertira, il sera léger. Ou alors, il se convertira même pas, parce qu'il prendra pas Dieu au sérieux. Voilà, il faut que les gens, même s'ils vont nous accuser aussi d'exagérer, mais qu'ils voient du sérieux. Et ça influence la considération de Dieu dans leur cœur. C'est important qu'il y ait de l'ordre dans l'œuvre de Dieu à tous les niveaux, que les jeunes respectent les aînés. Donc Paul en parle à Timothée. Il faut dire aux jeunes de respecter les aînés. Il faut dire aux aînés aussi. Hein, en ce moment-là, il parlait concernant les femmes d'un certain âge. Il disait, mais les femmes d'un âge avancées doivent éduquer les jeunes femmes dans le respect de la parole. Pas voulant encore leur donner des conseils de grand-mère sur le côté physique, sur le côté charnel. Donc, s'il peut y avoir certains conseils dans ce sens-là, c'est secondaire. Le plus important, c'est diriger les jeunes filles dans la logique de Dieu, dans la logique de la parole. C'est ça aussi l'ordre. C'est-à-dire que tu as 70 ans, tu as 75 ans, tu as 60 ans, tu te comportes avec ton âge, selon ton âge plutôt. Pas vouloir jouer à la fille de 35 ans alors que tu en as 65. Donc il faut qu'il y ait de l'ordre, qu'on sache que ça c'est une aînée, ça c'est une jeune fille, ainsi de suite. Donc l'ordre est important dans l'œuvre de Dieu. Qu'on sache qui est le responsable dans telle équipe, tout ça, c'est important. C'est important parce que sinon, on ne construit rien du tout. Donc là, le chapitre qu'on vient de lire nous enseigne l'ordre. Et nous voyons l'ordre aussi dans les Écritures, dans les travaux. Donc les travaux sont faits d'une manière sérieuse, de sorte que Néhémie a pu retrouver la liste de ceux qui étaient venus au premier tour avec Zorobabel et le sacrificateur Josué. L'ordre est important, ne méprisons pas cela en prétextant que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est un esprit, c'est l'esprit d'ordre. Nous continuons le chapitre. Oui,
oui, pasteur, il y avait juste une question. Est-ce que le Néhémie du chapitre 7, verset 7, c'est celui qui a écrit
Je ne sais pas. Donc ça peut être un autre Néhémie. Ça peut être le même. Mais je ne pense pas que ce soit le Néhémie de l'histoire du livre de Néhémie, puisque lui, il est venu plus tard que les Zorobabel et les Josué. Nous lisons donc le chapitre 7, qui commence par la fin. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. On passe au chapitre 8 plutôt.
Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composé d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Masseja. Et à sa gauche, Pedaja, Mishaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen ». Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué bannit Chérébja, Jamin, Akoub, Shabetai, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné.
Amen. Ça, c'est la fête des tabernacles qu'ils vont célébrer pendant les 7 jours. Et c'était extraordinaire. La lecture de la loi a été faite tous les jours. Et le premier jour, on a entendu Esdras faire la lecture de la loi du matin jusqu'au milieu de l'après-midi. Donc, il lisait et les Lévites étaient au milieu du peuple en train d'expliquer. Nous voulons dire une fois de plus, le retour à Dieu se passe aussi avec le retour à la parole de Dieu, à la Bible. Parce que là, on ne dit pas parole de Dieu comme ça vaguement, non. On a demandé le livre. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Chapitre 8, verset, premier verset. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Donc c'est le livre qui est apporté. Bien aimé, parce que beaucoup de gens disent parole de Dieu, c'est-à-dire ce que dit un homme de Dieu. Ah non! Ça peut être la parole de Dieu, mais la parole de Dieu sûre, c'est la Bible. C'est la Bible. Après, tout ce que nous on peut dire doit être approuvé par la Bible. Si ce n'est pas approuvé par la Bible, on ne doit pas considérer ça comme étant la parole de Dieu. Donc c'est d'abord la Bible, d'abord le livre. C'est ça qui compte. Et ça a créé la tristesse parce que les gens, lorsqu'ils entendaient les paroles de Dieu, se rendaient compte qu'ils n'étaient pas dans les normes. Mais dans ces paroles-là, il y a aussi l'amour de Dieu, il y a aussi la fidélité de Dieu qui n'abandonnera pas son peuple. C'est pourquoi les responsables commençaient à dire au peuple, arrêtez de pleurer, aujourd'hui si on donne les paroles, ce n'est pas pour vous condamner. C'est pour qu'on revienne à Dieu. Vous comprenez qui est Dieu, qu'on revienne à Dieu. Aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu nous fait d'écouter ses paroles. On ne doit pas être dans la tristesse. On doit être dans la joie, puisque ses paroles nous ramènent à Dieu. Voilà, donc c'est les responsables qui calmaient le peuple, qui commençaient à pleurer. Hein, non seulement parce qu'ils devaient se sentir fautifs, mais il y a aussi C'est comme si c'était les retrouvailles avec un être cher. Donc, quand Dieu est invisible, bien-aimé, on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Maintenant, quand tu entends la parole de Dieu qui te touche comme au premier jour, c'est comme des retrouvailles. Tu dis, ah, ça c'est le souvenir de ce Dieu-là qu'on a entendu pendant longtemps. Mais maintenant, là, on entend ça clairement encore. Donc, ils étaient dans les pleurs à cause de tout ça. Les responsables ont dit, calmez-vous, soyons dans la joie. Si nous pouvons écouter la parole ainsi, c'est une grâce de la part de notre Dieu. Et pendant sept jours, ils ont écouté la parole expliquée par Esdras, lue par les autres Lévites. c'était la restauration du peuple de Dieu. Donc on a vu, bien aimé, avec Zorobabel et Josué, la reconstruction du temple, l'ordre, le rétablissement de l'ordre. Avec Esdras, c'était le rétablissement de la parole de Dieu, du livre de la loi. Et avec Néhémie, c'est la reconstruction des murailles. Donc la reconstruction de la ville. Zorobabel, ils ont reconstruit le temple. Néhémie reconstruit les murailles, reconstruit la ville. Donc il veut reconstruire le peuple de Dieu en tant qu'individu. Et là, nous voyons une fois de plus. Avec Néhémie, il y a encore la logique de la prière qui nous est enseignée. Et là, nous voyons une fois de plus, pour consolider le peuple de Dieu, il faut la parole de Dieu. Il faut la lecture de la Bible, l'étude biblique. Il faut mémoriser la parole, il faut la connaître. C'est comme ça que le peuple de Dieu est consolidé. Les gens sont dans la joie et il y a toute une fête. Et au passage, je voulais une fois de plus attirer notre attention sur le fait que pour moi, le fait qu'on cite les noms, ce n'est pas fastidieux, ce n'est pas ennuyeux. Pour moi, ça montre combien la Bible est un livre simple qui ne fait que relater ce qui se passait réellement, quoi. Donc, il y avait les noms. On n'invente rien, donc c'est des choses qui se passaient. C'est pourquoi on nous met les noms des gens qui étaient là. Tout simplement, ça donne de la foi en cette parole qui a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que les détails des événements sont donnés simplement comme si c'était un journal. Voilà, que Dieu soit béni. Nous passons à l'autre étape, au chapitre 9. Oui, question ?
Il y avait la même question pour Mardoché, l'oncle de Esther, au verset 7. Et
non, je ne pense pas que c'est pas lui. C'est pas lui. Nous continuons.
Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashabnia, Sherebia, Odija, Shebania et Petacha dirent « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Gués et des Guirgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à donner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bazan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leur roi et les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres des villes fortifiées et des terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à toi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leurs coups et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé la loi, et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses fruits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse.
Voilà, bien-aimés, une longue, longue prière, une longue prière qui est en même temps un rappel historique de toute la miséricorde de Dieu, comment elle s'est appliquée aux enfants d'Israël pendant des siècles et des siècles. Les frères qui font cette prière, ils disent « Malgré tout ce qu'on t'a fait comme mal depuis des siècles, Dieu, tu as été toujours miséricordieux envers nous. » Et ils disent « Nous avons sans cesse recommencé à faire le mal. » Donc, à chaque fois que tu nous bénissais, nous nous replongions dans le mal. Mais dans ta miséricorde, tu nous ramenais toujours à toi. Et vous savez, ils ont un regard juste, parce que les époques qu'ils font, qu'ils rappellent à travers leurs prières, ces époques-là ont connu des gens qui se plaignaient en ce moment-là, en disant « Dieu ne nous est pas favorable », alors que eux maintenant, rétrospectivement, ils disent « Non, Dieu a toujours été favorable ». Donc ce sont nos parents qui n'ont pas vu ça. Bien-aimés, souvent, quand nous sommes dans le temps présent, nous avons l'impression que Dieu ne nous est pas favorable. C'est plus tard, quand on va regarder en arrière, on va se dire « C'est vrai que Dieu était avec nous ». Parce que dans le temps présent, on est nous-mêmes impliqués et on ne prend pas suffisamment de temps pour méditer les choses, pour voir les choses en perspective, comme on dit. On est impliqué et on ne voit que notre intérêt du moment. Mais quand 30 ans passent, 20 ans passent, on se dit, quand on regarde maintenant les choses en arrière, on dit, mais c'est moi qui étais fautif. Dieu a toujours été bon. Et c'est vrai, frères et sœurs. Même quand on se plaint dans le présent, en réalité, Dieu est bon toujours envers nous. Nous ne voyons pas ça parce que nous sommes trop impliqués à rechercher un bonheur du présent, quelque chose qui nous fasse du bien dans le présent. Mais eux, rétrospectivement, ils se rendent compte que Dieu a toujours été bon. C'est eux, c'est leurs ancêtres qui ont toujours été infidèle, mais Dieu, lui, il a toujours été bon. D'ailleurs, c'est écrit dans le Nouveau Testament, ce n'est pas à cause de l'infidélité de certains que Dieu va devenir infidèle. Dieu demeure toujours fidèle. Vraiment, on a un Dieu miséricordieux et fidèle. Et ça serait dommage de louper ce Dieu-là. Ça serait dommage de vivre une vie loin de ce Dieu-là. Quelqu'un qui ne cherche qu'à nous aider, à nous pardonner, à nous construire dans la gloire. Ça serait dommage. Quand on lit toute la prière, on voit comment il dit, mais le peuple du pays, ils devinrent maîtres des villes fortifiées, verset 25. Ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Verset 26, néanmoins ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ça a toujours été tout ça. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent les prophètes. Mais au temps de leur détresse, verset 27, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde tu leur donnas des libérateurs. Bien-aimés, pourquoi demeurer dans le péché, ou dans la colère, dans je ne sais quoi, ou bien dans une vie double, ou dans une vie sans engagement? On perd du temps. Vaut mieux se confier au Dieu bon. Il est bon. Je ne sais même pas comment décrire ça. Donc, quand cette prière le montre amplement. Et en finalité, ils disent, nous avons péché. Et voici la conséquence de tout ça, c'est que nous sommes esclaves. Nous aussi, on reconnaît aujourd'hui que, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous avons péché. Nous n'avons pas bien fait les choses. Voilà qu'aujourd'hui, le monde semble nous dominer tranquillement. Voilà qu'aujourd'hui, pour trouver des vraies prédications dans les chaînes de télévision, ça n'existe presque pas. Dans les chaînes prétendument chrétiennes, ce n'est que de la chair et de l'amusement. Tout ça parce qu'on a négligé Dieu. Donc c'est le moment de nous repentir, d'avoir conduit nos vies nous-mêmes, de nous repentir d'avoir mis nos projets avant Dieu. Il faut se repentir de tout ça, bien-aimé. C'est l'heure de revenir à Dieu, le cœur repentant. Si quelqu'un doute, il n'a qu'à regarder l'état de l'Église aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, des frères et sœurs qui sont en contact parfois avec des gens. Dès qu'ils prononcent le nom, écoute, je vais peut-être te présenter à mon pasteur. Aïe, 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 mais le païen sursaute. Il dit, non, je préfère discuter avec toi seul. Parce que quand on dit pasteur aujourd'hui, ça veut dire escroc. Donc il y a un problème. Donc il faut qu'on reconnaisse que les choses n'ont pas été bien faites. Tu diras, ah oui, mais moi je ne suis pas escroc, mais toi tu n'es pas pasteur escroc. Mais oui, mais il y a des négligences qui font qu'on arrive à devenir escroc. Peut-être que toi aussi tu es dans ces négligences-là. Donc il faut qu'on s'examine, qu'on dise non. Maintenant c'est 100% pour Jésus, 100% Bible, 100% Saint-Esprit. Voilà, c'est ça quoi. Donc on doit se repentir par rapport à tout ça. Oui, question ?
Oui, pasteur, il y avait une question. Que veut dire bénissez l'Éternel ? Est-ce qu'on peut bénir Dieu ?
Donc bénir, c'est en quelque sorte souhaiter de bonnes choses pour quelqu'un. Et c'est aussi, manifester de bons sentiments envers la personne. Oui, on peut manifester de bons sentiments avec Dieu. Quand on dit, Seigneur, je te bénis, donc je manifeste mes bons sentiments pour toi, quoi. Voilà. Et conclusion, verset 38 qu'on n'avait pas lu. On lit ça parce que c'est un verset très, très important, verset 38.
Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. Et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux.
Amen. Bien-aimés, ce n'est pas la première fois, les habitués de Bérien l'explorateur, ce n'est pas la première fois que le peuple de Dieu contracte une alliance. On contracte une alliance quand on vient d'une période où on s'était éloigné de Dieu. Et quand on revient sur la base de la lecture de la parole, parce qu'ils ont fait la lecture de la parole pendant des jours et des jours, sur la base de tout ça, sur la base de cette prière où ils reconnaissent le tort de leurs ancêtres et leur propre tort, ils disent « Maintenant, nous voulons fonctionner avec Dieu sur la base de la parole, sur la base de ce que Dieu aime. » Maintenant, nous, on va fonctionner, on va le suivre. Donc, on fait une alliance encore. Et c'est ça que nous devons faire quand on constate qu'on s'était éloigné, on avait négligé, on dit, Seigneur, désormais, je veux marcher par ta grâce, mais selon les Écritures, selon ton esprit. Je ne veux plus me mêler de ta conduite dans ma vie. Je te laisse faire. Et je suis les Écritures. Beaucoup ne font pas ce contrat-là, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans les mêmes problèmes, dans les mêmes tares. Il faut faire ce contrat-là quand on se rend compte de ses erreurs, quand on se rend compte de l'éloignement. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prier. Père éternel, nous venons faire l'alliance avec toi sur la base des Écritures. Nous décidons, Père éternel, d'obéir aux Écritures, de te mettre avant toute chose. Nous décidons, Père éternel, de mettre nos intérêts de côté et de te laisser la première place. Nous décidons d'écouter le Saint-Esprit. Nous décidons de ne pas chercher à produire des choses par nos propres efforts, mais à nous confier en toi, Papa, pour que toi, tu les produises. Nous prions, Seigneur, que tu prennes le contrôle de nos vies, que tu nous diriges en esprit, en vérité. Nous nous attendons à toi pour toutes choses. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi
mon seul Dieu.
Oh, prends mon âme, oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme,
toute ma vie, Seigneur, mon cœur,
pour toi, Seigneur,
que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien.
Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, nos erreurs, pardonne-nous la négligence à te suivre, Seigneur, à faire ta volonté. Restaure-nous, Seigneur. Prends notre âme. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Que nos vies te servent, Seigneur, à 100%. Afin que l'humanité voie qui tu es et soit sauvée. Merci pour la force que tu nous as donnée, Papa. Merci de restaurer ton Église pour cette année que nous soyons plus que vainqueurs. Attachés à toi plus qu'à tout. Béni soit ton nom, Papa. Nous te recommandons la journée de demain, que tu sois avec nous, que tu nous soutiennes, que tu nous conduises. Au nom de Jésus. Amen.